Et ça marche. Oula. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous recevoir ce soir pour le dernier temps de cette série de moments sur le rêve. On avait commencé la semaine dernière avec la Fabrique des rêves qui était la rencontre d'un neuroscientifique et d'un psychanalyste. Quel rêve au passé ensuite avec des historiens, historiens des sciences et une anthropologue cette semaine à disser sur le rêve aborigène. Et ce soir, on va rêver politiquement, ou en lutte, en tout cas, c'est le titre de cette soirée. Et je fais les présentations de nos intervenants, que je suis ravie de recevoir. Anne Jollet, qui est enseignante, chercheuse, spécialiste de la Révolution française, qui travaille au Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie à l'Université de Poitiers, qui est rédactrice en chef des cahiers d'histoire, revue d'histoire critique et membre du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, et qui va nous parler du rêve sous la Révolution française, dans son acception rêve éveillé, projet de société. Aurélien Berland, qui est agrégé docteur en philosophie, et l'auteur d'une thèse qui a été publié chez aux éditions La Découverte, La Fabrique des derniers hommes, Retour sur le présent avec Tony Simmel et Weber. Et donc votre thèse interroge la notion de progrès et questionne l'émancipation. Ce sera le thème de votre présentation. Martine Lebovici, maître de conférences émérite en philosophie politique à Paris Diderot, qui a travaillé sur Hannah Arendt, le nazisme, l'oppression et l'écriture de soi. Et vous êtes membre du comité de rédaction de Tumulte et Pluriel. Et dans l'écriture de soi, justement, vous avez écrit l'introduction de Rêver sous le Troisième Reich de Charlotte Bérard, donc qui était une Allemande qui a fait une entreprise de collecte des rêves de 1933 à 1939, et qui questionne justement la résistance par le rêve, en tout cas son projet. Elle cherche à dénoncer, à recueillir un certain nombre de matériaux pour dénoncer l'entreprise nazie. Donc résister par le rêve éveillé ou endormi, projet de société à bouleverser, que ce soit sous la Révolution française, la force de l'utopie, le rêve comme transgression, comme acte de résistance, et le rêve d'émancipation face à une société structurée par un rapport de force, que ce soit à la marchandisation, à la domination de l'argent, à la perte du lien social. De quel rêve parle-t-on lorsqu'il est lié à la politique et aux luttes? C'est ce qu'on va tenter d'avoir des éléments de réponse. Et je voulais terminer cette présentation par un livre qui a été ma première lecture quand on a pensé la thématique du rêve. Anne Dufour-Montel, psychanalyste et philosophe, qui a écrit dans Intelligence du rêve, fantasme, apparition et inspiration, ceci, je vous le lis. Le sujet qui rêve est un individu dangereux qui devrait être déféré aux autorités de la conscience. Car le rêve est un procédé subversif, d'information à rebours de la pulsion de mort que le sujet peut choisir d'entendre ou non, de prendre en compte ou d'ignorer. Un rêve peut changer une vie. Le génie qu'il déploie ne vient pas seulement des soubassements du désir méconnu, mais d'en haut, d'une information sur le réel qui nous précède et nous excède. Je vous remercie. Donc, chaque intervenant, on va faire chronologiquement. Donc, Anne, pour la Révolution française, Martine Lebovici, et puis le rêve d'émancipation, c'est demain. Donc, peut-être. Et ensuite, ce sera les échanges avec vous. Merci.
Le thème qui a dissuadé les Poitevins de venir ce soir, mais ils sont fatigués par un anniversaire intense. Donc, comme je l'ai dit à Héloïse, j'ai été un peu gênée par le terme même de rêve pour parler de la Révolution française. Évidemment, on peut prendre ce sens, ce mot dans un sens tout à fait large et métaphorique, et aller de l'imagination, voire du monde sensible, qui est très, très développé par les hommes du 18e. On peut évidemment aller du côté de l'utopie. Et on peut aussi chercher le sens du mot rêve. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait dans des textes politiques et notamment les débats parlementaires de l'époque de la Révolution française. Alors en fait, j'étais un peu encombré par ce mot du fait de sa polysémie, hein, si on ne parle pas du rêve nocturne. Et du fait qu'évidemment c'est une notion qui est chargée de significations et positives et négatives très très fortes dès évidemment l'époque de la Révolution française, tout en étant en fait assez peu employée. En même temps, ça me gênait peut-être, j'ai pensé aussi par rapport à moi-même, parce que dans les temps dans lesquels on est, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment de rêve dont on ait envie de parler en politique, y compris de cette idée qu'il y aurait quelque chose. Donc j'avais pris les mots cités par Sophie Vanisch, donc ma collègue historienne, au début d'un de ses livres, et elle reprend l'expression d'Edgar Quinet, ramener la foi en l'impossible. Et en y réfléchissant, justement, je me suis dit que, enfin pour moi, alors peut-être pour elle c'est ça, bon, elle n'est pas là donc on ne va pas en discuter, la Révolution française, justement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ramener la foi en l'impossible. Et de façon générale, je ne pense pas que la politique et l'action politique pour transformer la société se fondent dans une telle perspective. Mais donc c'est mon point de vue à moi qui aussi achoppe sur la valorisation justement de ce versant utopique des pensées politiques, voire de leur mise en œuvre, bon, à travers tout ce qui a été écrit les dernières années et notamment à travers les travaux très argumentés de Michel Rios-Arcet, mais aussi la valorisation, je crois que tu avais invité aussi notre collègue spécialiste des premiers socialismes, où elle va parler à un autre moment, Nathalie Brément. Et en histoire, il y a eu ces dernières années une relecture et une revalorisation très importante de ces projets caractérisés comme utopiques, notamment par Marx, et revalorisés comme étant de l'ordre d'une utopie qui crée du réel. Alors, j'étais un peu gênée par peut-être cette importante richesse du renouveau sur l'utopie qui a essayé de tordre le bâton en disant non, les utopies, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui nous meut, qui crée du neuf dans le présent, etc. Alors, pour revenir à la Révolution française, moi, il me semble que cette révolution, en tout cas, elle est, pour ceux qui la font, elle n'est pas du tout du registre de l'utopie, elle est du registre de la mise en œuvre de projets politiques, d'analyse de la société, qui sont très construits, qui sont construits depuis des décennies, notamment autour de l'économie politique. Donc comment est-ce qu'il faut organiser l'économie pour qu'elle crée le bonheur de l'humanité. Il y a une acculturation longue, des débats, ce qui fait le succès de 1789, c'est le fait qu'il y a justement disponible à mettre en œuvre des schémas d'organisation sociale qui sont très largement partagés et dans lesquels il y a, alors c'est peut-être là qu'est l'utopie, la conviction que leur mise en œuvre va créer du bonheur et va mettre en œuvre ses droits naturels, bon, qui sont proclamés en 89, mais qui sont explicités, débattus, la liberté, l'égalité naturelle, depuis, dans une opinion large, hein, je ne parle pas de philosophes, depuis au moins une cinquantaine, enfin on va dire une quarantaine d'années. Admettons qu'on se donne la grande encyclopédie Diderot d'Alembert comme horizon donc, autour des années 1750, comme horizon de la vulgarisation de ces idées, et pas seulement donc de ces principes, mais de la façon dont une organisation économique, et c'est notamment, je vous renvoie aux articles d'économie politique de l'encyclopédie, le libéralisme, donc on retrouvera ces problématiques, comment est-ce que la libre circulation va créer de la richesse, et pas seulement elle, mais aussi toutes les questions liées à la valorisation de l'agriculture à travers la physiocratie, etc. Alors, donc à partir de là, je suis allée voir dans les débats parlementaires à partir de 1789, et j'ai constaté que le terme rêve, donc j'étais quand même un peu omnubilée par cette notion, puis je suis assez élève docile, donc on m'avait dit de réfléchir là-dessus, donc j'ai dit, je vais réfléchir sur le rêve, et apparaît dans un sens qui est assez faible dans tout le début de la période, et qui est, du point de vue politique, plutôt négatif. Donc c'est le sens de ce qui n'est pas réaliste, hein, donc ce qui est resté peut-être dans la pensée commune, rêver en politique, c'est un projet qui ne peut pas être mis en œuvre, qui ne mérite peut-être pas, hein, d'être mis en œuvre. Et bon, je vous avais pris, par exemple, pour retrouver mes physiocrates, une intervention de Monsieur Dupont, donc devenu Dupont de Nemours, depuis les années 1780, qui fait une intervention au nom du comité des finances. Donc on retrouve, hein, cette organisation très, très précise, et c'est ce fonctionnement très, très minutieux de la Révolution à travers un rapport sur les moyens de remplacer la gabelle. Et dans ce texte, je trouve qu'on est un peu au cœur de notre problématique, c'est-à-dire remplacer la gabelle et la condamnation de la gabelle, donc de cet impôt sur le sel extrêmement impopulaire, c'est évidemment un projet politique très important qui a été porté depuis des années par des mouvements populaires forts qui luttent contre de multiples façons contre cette gabelle, qui a été exprimée, bon, dans les cahiers de doléances, qui est portée aussi par ces courants de pensée, donc ces économistes, physiocrates et d'autres d'ailleurs. Et Dupont, en faisant son exposé, il s'oppose à ceux qui voudraient supprimer la gabelle par principe, sans se soucier de par quoi on va la remplacer. Et il met en avant le fait que les exemples sont multiples, du fait qu'il faut aller vers l'équilibre. Hein, c'est un économiste qui vise donc l'équilibre entre les revenus et les dépenses ordinaires. Et de ce point de vue-là, il qualifie les projets d'autres intervenants comme étant réellement portés par des rêves philosophiques. Et c'est ce sens, hein, qui revient dans la plupart des interventions. Alors, je suis pas, j'ai pas fait, hein, peut-être tout à fait le tour de ces prises de parole, mais c'est ce sens négatif, hein, de ceux qui voudraient résoudre les problèmes à la légère, sans se soucier de la complexité de la société. Donc on le retrouve, hein, dans de multiples interventions, plutôt par dans la bouche de gens qui ne sont pas forcément les plus avancés, hein, du point de vue de la démocratie à l'Assemblée. Hein, et par exemple, je ne me suis pas souciée de voir ce que disent les démocrates, et notamment Robespierre, dans ce contexte. Et si, par exemple, le mot de rêve apparaît hein, chez Robespierre. Mais ça m'intéressait de voir un peu quelle était la norme dans ces échanges, ces échanges d'assemblée sur l'usage de cette référence au rêve. Et puis, en avançant dans... Donc, j'avais fait une présentation un peu plus détaillée hein, de ce corpus, mais ce n'est peut-être pas le lieu de le faire ici. En avançant dans l'examen de ces interventions, on voit progressivement un glissement dans le sens de où interviennent à l'Assemblée, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait qu'on fasse porter le débat, c'est-à-dire qui sont ces révolutionnaires qui parlent, interviennent à l'Assemblée des délégations de citoyens qui portent eux aussi des projets et qui sont eux aussi porteurs hein, de projets très concrets de mise en ordre de la nouvelle société. Alors c'est notamment à partir de 92 et surtout en 93 qu'on a pendant certains débats, et là aussi c'est intéressant de voir lesquels, en particulier il y a un très long débat sur les questions de l'éducation. Et sur l'éducation donc, qui a été considérée en juin 1993 hein, dans la déclaration des droits de l'homme de l'an 1 comme un des droits de l'homme et comme un des devoirs de la société vis-à-vis de l'ensemble de ses citoyens. Et ensuite, il s'agit aussi de débattre de la construction d'un nouveau système éducatif. Et dans ces interventions, il y a des prises de parole de citoyens de diverses régions de France qui proposent des projets. Et dans ces propositions, donc on peut aussi s'interroger hein, sur évidemment le statut de l'orateur. Et peut-être que ces orateurs ont un statut qui est moins solide que celui d'un représentant du peuple. Peut-être qu'aussi ce sont des gens socialement moins sûrs d'eux-mêmes. Et très souvent, on trouve comme un peu une excuse le fait que c'est peut-être en partie porté par un rêve, qu'il y a peut-être une dimension qui est rêvée, mais que le fait que ce soit en partie porté par un rêve, ça n'invalide pas la qualité de la proposition et la nécessité de la mise en œuvre. Ce point de vue-là, il y a vraiment un glissement dans cette référence au rêve qui prend une connotation qui devient plus positive au sens où, effectivement, le rêve a droit à sa part de présence dans la construction sociale. Alors, pour synthétiser ça, je crois que ça renvoie au fait que ce qu'on appelle la révolution, c'est évidemment l'enchevêtrement d'actions multiples portées par des groupes sociaux qui sont divers. Et donc, il y a une diversité hein, de la prise de parole, mais aussi du rapport au savoir. Donc je pense qu'à la fois il y a un horizon partagé, et c'est pour ça que j'avais commencé là-dessus, sur cette construction des Lumières qui construit une forte conviction que les savoirs permettent de transformer les sociétés d'une façon qui est finalement rationnel, hein, lié à une bonne connaissance. Kenney insiste beaucoup là-dessus, hein, sur le fait que tout ça, c'est très complexe et qu'il faut des compétences importantes. Donc peut-être il y aura des rapprochements avec le présent, parce que ça m'a fait penser évidemment au monde de l'expertise dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je crois que le propre de la Révolution française, justement, la différence de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est que ces porteurs, si on veut, de savoir sûr de ce que savoir peut amener en termes de nécessaire transformation, en même temps ne va pas sans l'idée que ce savoir doit être partagé et doit être partagé alors d'une façon qui là aussi peut nous rappeler notre temps avec cette insistance sur la pédagogie, hein, sur le fait que si on n'est pas d'accord c'est parce qu'on n'a pas bien compris. Mais dans le cadre de la Révolution française, qui justement n'est plus celui de ce monde de la physiocratie dans une monarchie éclairée, ça se croise avec la mise en œuvre de ces principes de l'égalité et de la liberté des droits. Et donc avec des ambitions qui sont démocratiques. Et je crois que ça explique que dans le contexte démocratique de l'an 1, le fait que des interlocuteurs, d'une part, soient entendus par les représentants du peuple, mais que les représentants du peuple eux-mêmes, donc j'avais pris quelques citations, hein, mais que je ne vais pas reprendre là, eux-mêmes, dans des débats, par exemple sur l'organisation de l'armée, qui est un autre grand débat, insistent sur le fait qu'il faut tenir compte des principes, quitte à justement être en partie dans un rêve. L'idéal de l'armée démocratique, de l'armée de la République, on admet que peut-être dans un premier temps une nouvelle organisation peut créer du désordre, peut créer des difficultés, mais qu'il y a une certitude dans le fait que ça va permettre d'aller au-delà de ce désordre et in fine de vaincre. Donc là-dessus je partage le point de vue de François Anker, qui avait écrit un texte, pas pour ce volume, mais Michèle Rio-Sarcey, quand elle a publié ce livre, hein, L'Utopie en question, qui était les actes d'un séminaire, donc avec des entrées très très disjointes, hein, sur la question, avait jugé utile, en hommage, de reprendre un texte de François Anker, justement sur l'utopie et la Révolution française. Et Anker insiste beaucoup sur le fait que pour lui il n'y a pas de contradiction entre ces différents moments de la Révolution et que la Révolution française est du point de vue de l'utopie un moment qui est très particulier. Et je crois que du coup il m'a aidé à comprendre où était mon malaise par rapport à tous ces développements sur l'utopie, parce que, de fait, le projet de transformation sociale, il est en cours. Donc, il n'y a pas cette idée d'un projet pour un autre temps qui va subvertir le temps présent. La subversion, si elle a lieu, c'est maintenant. Et donc, la dynamique et en particulier dans la période démocratique, elle consiste à constamment mesurer les limites de la mise en œuvre des principes. Donc là, je renverrai volontiers à Robespierre, mais mesurer dans le temps court quelles sont les solutions que l'on peut apporter, et donc là, on est bien dans de la politique, à ces difficultés, voire à ces impossibilités momentanées de mettre en œuvre les principes. Alors, on pourrait développer plusieurs niveaux. Je ne sais pas si tu vas parler de la propriété, par exemple. On peut dire que la Révolution française est menée et dominée par une représentation absolue de la propriété qui est une utopie, pour le coup, qui est une visée, qu'en même temps, cette liberté, elle apparaît très vite comme rentrant en contradiction avec d'autres droits de l'homme. Et on retrouve des débats d'ailleurs plus anciens, enfin, sur la question de cette contradiction entre le droit à l'existence et la liberté, et notamment la liberté du propriétaire. Et la révolution, le temps qu'elle est révolution, que justement il n'y a pas de stabilisation sociale, c'est un processus qui tente de résoudre dans le présent cette contradiction. Et je crois que c'est le propre des temps révolutionnaires, à mon avis, justement, de ne pas être des utopies, au moins au sens... donc il faudrait préciser, mais peut-être, là j'avais pris un texte que j'avais extrait justement du livre dirigé par Michel Rios-Arce. Il y a une volonté et une recherche de solutions dans le court terme révolutionnaire, que ce soit de la part des différents acteurs, que ce soit par le peuple qui peut intervenir violemment, y compris par des émeutes, en résolvant le problème des limites à mettre à la propriété au nom de sa survie, que ce soit par les députés, que ce soit par l'articulation entre ces émeutiers et des porte-paroles qui portent immédiatement des revendications politiques, donc comme on l'a vu avec la révolution du 10 août 92, comme on le voit en juin 93. De ce point de vue-là, je crois que la révolution elle-même est une mise en œuvre constamment problématique, mais en fait constamment politique, justement, de ces visées de transformation sociale. Et de ce fait, ça m'avait amené à penser que cette part du rêve, on doit lui faire une place peut-être plus modeste, constamment confrontée à la nécessaire mise en œuvre de la transformation sociale.
C'est à moi, là ? Bon, on va discuter tout à l'heure. Bon, ben, bonsoir à tous. Alors là, on va être dans un univers complètement différent. On saute de 1789 aux années 1933-1939 à Berlin. Donc, je vais vous parler d'un livre que j'ai préfacé qui s'appelle « Rêver sous le Troisième Reich » de Charlotte Bérat, qui est paru pour la première fois en France en 2002. Alors, Charlotte Bérat est née en 1901 à Berlin et décédée à New York en 1985. Elle est issue d'un milieu juif assimilé. Elle était à l'époque journaliste pigiste et proche de la mouvance communiste dans ces années-là. Dès la prise du pouvoir par Hitler en 1933 jusqu'en 1939, elle a demandé ou fait demander par des amis proches à plus de 300 personnes de son entourage de lui raconter leurs rêves. Des gens ordinaires, la couturière, le laitier, le médecin, chef d'entreprise, etc. Des non-juifs, des demi-juifs et des juifs. En 1939, elle parvient à fuir en Angleterre, où elle a envoyé ses récits cryptés, glissés dans des lettres adressées à différents destinataires. Elle les emporte avec elle aux États-Unis, où elle passera le reste de sa vie, et ce n'est qu'en 1962... que sur les instances de l'écrivain Karl Otten, elle se décide à composer un livre à partir de ce matériel qui a été publié en Allemagne en 1966 et traduit aux États-Unis en 1968 grâce à Bruno Bettelheim. Alors, dans ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, on va voir qu'on peut tout à fait dire que ces rêves sont des rêves politiques, mais qu'il est beaucoup plus difficile de les rassembler sous le titre « En lutte », comme vous nous l'avez proposé. Il y a certes dans le livre un chapitre qui recueille des rêves d'action ou de protestation, par exemple celui d'une dame qui rêve qu'elle détache la croix gammée du drapeau nazi, ou d'un journaliste émigré à Prague qui rêve qu'il attrape Hitler au lasso. Mais Charlotte Bérat remarque que ce dernier avait fait ce rêve alors qu'il n'était plus en Allemagne, mais donc il n'était plus sous la pression directe du régime. Elle note aussi que les rêves d'action sont plutôt faits par des gens qui, au préalable, avaient déjà une force de résistance morale, parfois religieuse et politique. Donc, les rêveurs de l'enquête de Charlotte Bérat sont, d'une part, des individus non politisés, et d'autre part, ce sont des gens qui n'ont pas subi de violence directe, par exemple venant d'une troupe de SA. Ils n'ont pas été torturés par la Gestapo, et si les Juifs dont les rêves sont regroupés dans un chapitre à part sont l'objet d'une persécution directe, dès l'arrivée au pouvoir des nazis, on est à un moment où le génocide n'est pas encore directement organisé. D'une manière générale, cette période se caractérise par ce que les nazis eux-mêmes ont appelé la Gleichschaltung, c'est-à-dire littéralement la synchronisation ou encore l'alignement, la mise au pas, ce qui veut dire qu'il s'agit de faire marcher au même rythme et dans la même direction l'ensemble de la société allemande, les institutions, les organisations sociales et toutes les forces vives de cette nation. Donc, si on peut dire que ces rêves sont politiques, et d'ailleurs Charlotte Bérat les appelle elle-même des fables politiques, c'est que non seulement on y reconnaît directement le contexte, on voit il y a des personnages qui apparaissent dans les rêves, Göring, Goebbels, Hitler, les SA, etc., mais on a le sentiment que ces rêves aussi sont pour le rêveur et pour celles à qui ils sont racontés un facteur de connaissance de la réalité extérieure au psychisme, c'est-à-dire le totalitarisme nazi, et pas seulement l'expression de leur conflit interne. Comme l'historien Reinhard Koselleck, qui a fait la postface de ce livre, l'écrit, il ne s'agit pas de la réalité qui s'offrait quotidiennement, mais de sa structure cachée, comme si le rêve, dans ces circonstances, percevait, enfin on va y revenir et je vais vous donner des exemples, faisait comprendre aux gens ce qui était en train de se passer, mais voire pas seulement. Donc je voudrais évoquer quelques aspects du nazisme qui transparaissent dans les rêves ou plus et généralement ce qu'on pourrait appeler l'intention du régime totalitaire. Parce que, j'y reviendrai, il est très remarquable que une très grande partie des rêves qu'elle recueille sont rêvés en 1933-34, c'est-à-dire juste au début de la mise en place de ce régime, et qu'elle dit que jusqu'en 1939, d'une certaine manière, il n'y a pas vraiment de changement dans les rêves. Donc je vais reprendre quelques aspects du nazisme qui transparaissent dans ces rêves. Alors, j'en ai relevé pour le moment trois. Hein. Il y en a un, c'est ce qu'on pourrait appeler la frayeur diffuse. Ça veut dire que, bon, vous savez tous que le régime nazi est un régime de terreur, mais il faut voir que la terreur nazie ou totalitaire en général n'a pas seulement pour fonction d'éliminer les opposants au régime. Vous savez peut-être que dès que les nazis arrivent au pouvoir, ils commencent par éradiquer complètement l'opposition et ils ouvrent les premiers camps de concentration pour les communistes. Mais justement, la caractéristique du nazisme, c'est que la terreur n'a pas uniquement cette fonction-là, elle est un dispositif fondamental de la mise au pas, de la Gleichschaltung du régime. Comme le note un entomologiste du régime nazi qui s'appelle Victor Klemperer, qui était un philologiste qui était marié à une non-juive, donc qui a pu survivre dans le régime pendant un certain temps, qui était philologiste et qui ne pouvait absolument pas... il a été viré de son travail, il n'avait plus le droit d'aller dans les bibliothèques, il n'avait plus le droit de circuler, etc. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recueilli d'abord dans les journaux et ensuite dans les affiches qu'il voyait, des éléments de langage, du langage nazi. Et il y a un livre absolument extraordinaire qui s'appelle LTI, Lingua Terci Imperii, dans lequel il recueille des éléments de langage qu'il collecte. Et il dit dans ce livre, il dit à propos d'un discours de Hitler en 1934, il dit « C'est un discours qui est allusif, qui menace, qui met en garde, qui donc, tout le monde, on nous dit « Nous savons tout, méfiez-vous. » C'est-à-dire qu'il y a une tonalité du discours nazi qui est une menace voilée pour tout le monde. Donc ça veut dire, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans énormément de rêves, à savoir qu'ils traduisent un sentiment d'incertitude qui envahit chacun. Quelque chose peut m'arriver n'importe où, n'importe quand, au moment où je ne m'y attends pas. On se sait surveiller. On est toujours susceptible d'être pris en flagrant délit, mais on ne sait pas exactement ce que l'on ne doit pas faire. On le sait qu'une fois qu'on l'a fait. Donc la frayeur est diffuse, insidieuse. Et le rêve présente ça. Mettre les... Bon, j'ai mis quelques rêves pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Hein. Le rêve présente des situations où quelque chose arrive de complètement inattendu qui bouscule tous les repères habituels. Alors, on va regarder le deuxième rêve. Le deuxième rêve, voilà. Donc, il s'agit du rêve d'un médecin de 45 ans qui rêve en 1934 la chose suivante. Après mes consultations vers 9 heures du soir, au moment où je m'apprête à m'allonger tranquillement sur un sofa avec un livre sur Matthias Grunewald, la pièce, mon appartement, perdent brusquement leurs murs. Effrayée, je regarde autour de moi. Aussi loin que porte le regard, plus de murs aux appartements. J'entends un haut-parleur hurler, conformément au décret sur la suppression des murs du 17 de ce mois. Alors, il y a beaucoup de choses, évidemment, là-dedans. Hein, je veux faire remarquer en particulier le décret. Voilà, il invente un décret. Et dans beaucoup de rêves, vous avez des gens qui fabulent toutes sortes de décrets qui n'existent pas, mais aussi invraisemblables les uns que les autres. Par exemple, une femme professeure de mathématiques rêve au début de l'automne 1933 qu'il est interdit sous peine de mort d'écrire quoi que ce soit qui ait à voir avec les mathématiques. Bon, et il y en a plein comme ça. Hein. Et on retrouve aussi ce genre d'invention dans certains rêves de non-juifs qui ont une caractéristique physique qui leur fait craindre d'être considérés comme tels. Par exemple, une jeune fille de 22 ans qui a un nez fin et busqué rêve d'un bureau des certificats d'arianité qui n'a jamais existé. Et là, ça dévoile, si vous voulez, ça montre un caractère de l'antisémitisme nazi qui a assez peu souvent été remarqué, c'est-à-dire qu'il a aussi pour fonction, évidemment, de mettre à l'écart, puis de chasser et ensuite d'assassiner les Juifs et aussi les Tziganes, mais il a un caractère de ce qu'il déstabilise aussi de façon très intime les non-Juifs. Et vous avez par exemple un autre rêve où une femme brune rêve qu'elle est au royaume des blondes et qu'elle est mise à l'écart parce qu'elle est brune. C'est-à-dire que c'est vrai, et là on a vraiment, on découvre d'une certaine manière, et j'y reviendrai, que le nazisme fait effraction dans l'intimité des gens. Il est à l'intérieur des gens. Hein. Et aussi, autre chose, vous avez des rêves qui dont les personnages sont des objets du quotidien. Par exemple, des objets de l'environnement de la chambre à coucher, donc la chambre à coucher où c'est l'endroit où normalement on est, comment dire, on est rassuré pour s'endormir. Et vous avez par exemple une femme qui rêve que sa lampe de chevet dit d'une voix nasillarde ce qu'elle a dit dans la journée. Ou alors ça peut être un poêle qui, vous voyez, ou alors une autre qui a des petits angelots, vous savez, les petits putti de Michel-Ange au-dessus de son lit, et elle rêve qu'il la regarde. Hein, il y a plein de rêves comme ça. Hein. Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment la frayeur diffuse, la terreur insidieuse qui est rêvée par les rêveurs de Charlotte Bérat. Alors, deuxième caractéristique, les rêves inventent des scénarios autour de ce qu'on pourrait appeler l'effraction continue de l'intimité des gens qui va jusqu'à l'exercice de la pensée lui-même. Alors, prenez par exemple le troisième rêve, qui est un rêve fait par une femme de ménage à l'été 1933. Je rêve qu'en rêve, par précaution, je parle russe. Je ne les connais pas, je ne le connais pas. En outre, je ne parle pas en dormant. Je parle russe pour que je ne me comprenne pas moi-même, que je ne me comprenne pas moi-même, et que personne ne me comprenne si je disais quelque chose à propos de l'État, parce que c'est interdit et que cela doit être dénoncé. C'est-à-dire, c'est l'emprise. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, c'est très instructif sur ce qu'est le totalitarisme, c'est-à-dire que il ne s'agit pas seulement d'attenter à l'expression publique des opinions, comme dans une dictature ordinaire, mais d'empêcher que se forment des opinions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire d'empêcher de penser. Et un dirigeant nazi déclarait ceci: la seule personne qui soit encore un individu privé en Allemagne, c'est celui qui dort. En Allemagne, il n'y a plus d'affaires privées. Si vous dormez, c'est votre affaire privée, mais dès le moment où vous vous réveillez et où vous rentrez en contact avec une autre personne, vous devez vous rappeler que vous êtes un soldat d'Adolf Hitler. Mais à cela, Charlotte Bérat ajoute, donc là, l'idée, si vous voulez, dans le rêve, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous vous réveillez, vous êtes un soldat d'Adolf Hitler. Mais ce que les rêves de Charlotte Bérat montrent, c'est que le dirigeant nazi a peut-être sous-estimé les possibilités du Troisième Reich, à savoir que le rêve lui-même n'est plus un refuge, il n'est plus une affaire privée. Et donc, Bérat indique très exactement l'enjeu du totalitarisme, à savoir une démolition méthodique du moi humain, comme si on voulait engager ce moi à se chasser de lui-même, à se chasser lui-même de lui-même, selon la forte expression de Charlotte Bérat, à s'auto-transformer en non-personnage. C'est-à-dire que l'individu lui-même met en œuvre des mécanismes par lesquels il s'expulse lui-même de lui-même. Hein, et cela est le travail du rêve. Troisième point sur lequel je voudrais insister comme aspect du totalitarisme qui transparaît dans les rêves, c'est que on est au-delà du seul empêchement de l'opposition ou de la résistance. Parce que ce qui est figuré de très nombreuses manières, c'est l'adaptation des sujets. C'est pour ça que c'est pas clair, c'est pas évident qu'on puisse dire qu'il s'agit de résister par les rêves. Hein, parce que ce que montrent justement ces rêves, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est que ils montrent l'adaptation des sujets, les processus par lesquels les sujets deviennent eux-mêmes ce qu'on appelle les Mitläufer, c'est-à-dire des gens qui participent, qui marchent avec le courant. Et ces rêves, dit Charlotte Bérat, constituent pour le rêveur lui-même ce qu'elle appelle un rite d'initiation au totalitarisme. Non seulement ils mettent en scène directement la mise au pas, la Gleichschaltung, mais les rêveurs s'infligent à eux-mêmes cette initiation. Et là, effectivement, on peut remonter au premier rêve qui ouvre d'ailleurs le livre et que Charlotte Bérat considère comme typique, si vous voulez, des rêves qu'elle va mettre en ordre. Alors voilà, c'est un entrepreneur d'une soixantaine d'années et Charlotte Bérat nous dit qu'il nous fait pénétrer dans l'atelier du régime totalitaire où était fabriqué le mécanisme de son fonctionnement. Alors voici le rêve, donc c'est un entrepreneur. Goebbels vient dans mon usine, il fait se ranger le personnel à droite et à gauche. Je dois me mettre au milieu et lever le bras pour faire le salut hitlérien. Il me faut une demi-heure pour réussir à lever le bras, millimètre par millimètre. Goebbels observe mes efforts comme s'il était au spectacle, sans applaudir ni protester. Mais quand j'ai enfin le bras tendu, il me dit ces cinq mots: votre salut, je le refuse, fait demi-tour, se dirige vers la porte. Je reste ainsi dans mon usine, au milieu de mon personnel, au pilori, le bras levé. C'est tout ce que je peux faire physiquement, tandis que mes yeux fixent son pied beau pendant qu'il sort en boitant. Jusqu'à mon réveil, je reste ainsi. Donc, on voit bien là, comment cet homme se rêve lui-même résister à faire le geste du salut nazi. Il arrive à le faire finalement, mais justement, il est humilié. Il est humilié par Goebbels qui dit: votre salut, vous pouvez vous le mettre où je pense. Et ce qui est très important, et on va y revenir, c'est la présence des autres qui ne disent rien, hein, de tous ces gens de son usine qui ne disent rien. Et donc, on voit, si vous voulez, que... ce qui est mis en jeu là, il y a d'autres rêves dans ce genre, ce sont les affects les plus profonds des individus, celui en particulier de vouloir se sentir appartenir à la majorité. Par exemple, une femme participe à une réunion organisée pour elle par une amie, et le lendemain, une voisine vient dire que dans la réunion, certains ne faisaient pas le salut hitlérien. Et là, dans le rêve, l'amie met la rêveuse à la porte, de crainte que ça se sache. Et l'amie se retrouve dans un bus, et là, elle se met à crier à tous les occupants qui tournent en silence leur visage vers elle, « Heil Hitler !» Hein? Donc ça veut dire qu'elle se construit elle-même à participer d'elle-même au soutien au régime. Alors, je voudrais revenir sur le rêve de l'entrepreneur parce que on remarque deux autres choses qu'on va retrouver dans d'autres rêves. La première, c'est, je vous le faisais remarquer tout à l'heure, c'est l'attitude du personnel indifférente, voire glaciale. Le rêveur est seul. Et dans beaucoup de rêves, comme par exemple celui de la femme chassée de chez son ami, les visages sont inexpressifs. Ils ont tous la même expression. Et ça met en image ce qu'Hannah Arendt, qui inspire, aussi, enfin, qui était une amie de Charlotte Bérat, et qui, sur laquelle elle s'appuie beaucoup pour donner des éléments de compréhension généraux de ce qu'elle a compris. C'est ce que Arendt appelle la désolation, ou encore l'atomisation des hommes, instituée par le totalitarisme, ou encore l'atteinte aux liens humains, l'impossibilité de toute amitié. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est ce qu'on pourrait appeler la Stimmung, c'est-à-dire la tonalité de tout ça, hein, à savoir que ce qui arrive au chef d'entreprise est triste, mais ça n'est pas tragique. Il voudrait ne pas faire le salut hitlérien, mais il le fait quand même et il est humilié. Et Charlotte Bérat ajoute, ça a même un côté farce. Et ce qui ressort très souvent dans son livre, c'est le grotesque de beaucoup de situations. Prenons un autre rêve, c'est-à-dire un rêve d'un employé de bureau qui rêve ceci. Je rêve que je m'installe solennellement à mon bureau après m'être enfin décidée à porter plainte contre la situation actuelle. Je glisse une feuille blanche sans un mot dessus dans une enveloppe et je suis fière d'avoir porté plainte et en même temps j'ai honte. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que le nazisme ridiculise toute résistance, toute volonté de résistance, voire toute volonté de sacrifice. Le résistant n'est pas seulement menacé, il est ridiculisé, comme le sont à l'avance toutes les conduites héroïques. Donc, et d'ailleurs, Charlotte Bérat remarque, c'est-à-dire que ce sont les postures morales léguées par la tradition occidentale qui sont complètement bouleversées par les systèmes totalitaires, par le nazisme, et on pourrait sans doute le dire aussi du stalinisme. Et Bérat remarque que les rêves des opposants ne comportent jamais aucun élément de grotesque. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on a l'impression que le pouvoir de fiction de l'esprit a inventé des schémas possibles, parce que je vous rappelle que c'est souvent rêvé au début. Hein, à partir, je cite Charlotte Bérat, de symptômes à peine perceptibles dans la masse des événements quotidiens. Ce qui ne pouvait pas encore être reconnu dans l'état de veille, je la cite, une réalité sur le point de se transformer en cauchemar, du fait du caractère complètement inédit de ce qui était en train de se mettre en place, cela trouve une formulation grâce au travail onirique. Alors, Charlotte Bérat n'explique pas pourquoi, elle le constate, pas plus qu'elle ne développe une théorie du psychisme qui pourrait rendre compte de ce phénomène, elle laisse au lecteur et au chercheur le soin de le faire. Le dernier chapitre du livre est consacré à des rêves de juifs, des juifs assimilés, c'était le cas en Allemagne. Et on se rend compte que même si le génocide n'est pas encore à l'ordre du jour, ils sont, eux, l'objet, dès l'arrivée au pouvoir de Hitler, de persécutions directes. Et on peut y percevoir la douleur d'être rejeté d'une Allemagne dont ils croyaient faire partie, mais aussi une anticipation de l'exil et dans l'exil de la perte de la langue. Alors voilà, on va regarder l'extrait, c'est le troisième extrait, c'est le rêve d'un juif, effectivement. Voilà, celui-là. Alors c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui est un avocat, hein, et qui rêve ceci. Il y a deux bancs au Tiergarten. Le Tiergarten, c'est un jardin à Berlin. C'est un zoo. Ah, oui, merci, c'est vrai. Tiergarten. L'un qui est normalement vert, donc deux bancs, l'autre jaune. Entre parenthèses, les Juifs n'avaient plus alors le droit de s'asseoir que sur les bancs peints en jaune. Et entre les deux, une corbeille à papier. Je m'assieds sur la corbeille à papier et je m'accroche moi-même autour du cou un écriteau comme en portent parfois les mendiants aveugles, mais aussi comme les autorités en accrochent aux « souilleurs de race », entre guillemets. Et sur l'écriteau, il y a écrit « si nécessaire, je cède la place au papier ». Donc, si vous voulez, là, le rêveur se voit comme un déchet. Hein, et il y a une anticipation. Et encore une fois, on est au début du nazisme, de la prise du pouvoir, comme une anticipation de la déshumanisation radicale des Juifs, qui, vous le savez sans doute, sont considérés comme des poux ou de la vermine. Mais aussi, et le panneau qui s'accroche lui-même, c'est une ridiculisation de la victime elle-même. C'est elle qui est rendue grotesque. Je ne sais pas si vous avez en tête les images de l'arrivée des nazis en Autriche, à Vienne, où on les voit effectivement mettre des panneaux sur les gens et puis faire nettoyer un vieil homme avec nettoyer la chaussée avec une brosse à dents, enfin des trucs. Je ne sais pas si vous avez en tête ces images de Vienne. Hein. Donc Alors, je voudrais, maintenant j'aurais terminé, en remarquant d'abord, bon, vous l'avez sans doute compris, que Bérat met volontairement à l'écart l'interprétation psychanalytique des rêves, qui considère le rêve comme l'expression détournée de désirs refoulés. Mais nous pouvons retenir de la démarche freudienne l'idée d'ambivalence, c'est-à-dire le fait qu'une même image peut dire à la fois une chose et son contraire. C'est pourquoi, à la question de savoir si ces rêves manifestent la mise en place du totalitarisme sur le psychisme, c'est-à-dire dans les termes de Bérat, l'atelier du régime totalitaire, ou sa résistance à une telle emprise, je crois qu'il faut répondre les deux, mon capitaine. D'abord, parce que les rêves d'adaptation n'impliquent pas nécessairement que l'individu va s'adapter. Ce sont des rêves, hein, même si ça a été le cas. Et de toutes les manières, on ne peut pas vraiment répondre à cette question parce que Charlotte Bérat n'a pas retrouvé les gens après. Elle ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Hein. Mais elle dit quand même que l'entrepreneur qui rêve, qu'il est brisé, est resté un homme libre, relativement courageux. Et d'autres, comme le peintre Georg Grosch, dont elle, vous connaissez peut-être ce peintre, racontent dans un de ses livres un rêve de cette sorte, et il décide d'émigrer après un de ses rêves. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que c'est un rêve de terreur que Charlotte Bérat a fait elle-même, qui lui a donné l'idée d'aller demander à d'autres s'ils font ce même genre de rêve. Ce qui lui permet, elle, terrorisée, de sortir de sa propre terreur en allant parler avec d'autres. Et là, effectivement, alors, vous dites lutte, bien sûr qu'il y a quelque chose, comment dire, d'une résistance de sa part, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle doit crypter les rêves quand elle les envoie à l'étranger, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est en train de faire quelque chose là, qui est, comment dire, dangereux pour elle. Mais ça n'est pas dangereux au sens d'une résistance au nazisme. C'est dangereux parce qu'elle instaure entre elle et les rêveurs une relation qui échappe au régime. Elle invente une forme d'action toute seule. Je dirais qu'elle refait du politique en ce sens contre l'antipolitique nazi. Si on veut bien considérer que le totalitarisme nazi, c'est pas tant, comme certains le prétendent, une exacerbation du politique ou un tout politique, mais c'est au contraire, et ça c'est évidemment la thèse d'Arendt sur le totalitarisme, c'est une intention d'éradiquer d'une façon inédite, inouïe et extrêmement profonde toute spontanéité humaine, c'est-à-dire toute source de politique, hein, avec évidemment dans ce sens là l'extrême que sont les camps de concentration. Ça c'est la deuxième remarque que je ferai. J'en ai encore deux sur le grotesque. Vous avez peut-être remarqué dans le rêve de l'entrepreneur la fin du rêve. C'est-à-dire qu'il voit Göring se retourner et il voit qu'il boite, il voit son pied beau. Et c'est vrai que Göring avait effectivement un pied beau. Eh bien, on peut dire que là, ce Göring apparaît comme grotesque. Et il y a beaucoup de rêves où, par exemple, on voit Goebbels... Hitler en dompteur de cirque clownesque, Göring avec une arbalète, et j'ai trouvé un dessin justement de Georg Grosch qui est... Attends, j'espère que... Ah ben oui, il est passé. Bon, ben je ne l'ai pas, je suis désolée. Parce que... Ah ben ça, c'est vraiment très bête. Attendez. Non, je ne l'ai pas, c'est tout à fait dommage parce qu'on voit Hitler en clown, quoi, en gros. C'est-à-dire que la caricature... Hein, et les dessins de Grosch sont des caricatures, c'est effectivement une force par rapport à ce qui... C'est remarquer le grotesque de tous ces gens. Et évidemment, on peut penser à Charlie Chaplin, le dictateur. Hein. Et d'ailleurs, Klemperer lui-même, à propos des discours de Hitler, parle de numéros de carnaval et du fait qu'en général, dit-il, ils n'ont aucun sens de leur propre comique. Et l'une des questions, effectivement, qui se pose par rapport au nazisme, c'est pourquoi les Allemands n'ont pas ri ? Comment se fait-il que tout ça leur est apparu mortellement sérieux ? Hein ? Et dans les rêves, effectivement, le grotesque est sans doute une des failles par laquelle de la résistance se produit par le rêve. Et dernière remarque, la résistance ne consiste pas forcément dans le contenu manifeste des rêves, mais dans le fait que les rêves représentent un refuge pour la faculté de penser. Un des rêveurs prononce en rêve « Je ne dois plus dire toujours non ». Et là, c'est extraordinaire parce que il y a à la fois la mise en place de l'emprise totalitaire et son contournement. Parce que le psychisme utilise un mécanisme de dénégation grâce auquel l'interdit est affirmé et représenté à la fois. Et je voudrais terminer sur le dernier extrait. Je rêve que je ne rêve plus que de carrés, de triangles, d'octogones qui ressemblent tous à des gâteaux de Noël parce qu'il est interdit de rêver. Donc rêver qu'il est interdit de rêver, c'est très exactement transgresser l'interdit. Voilà. Donc j'ai répondu à votre question d'une manière qui n'était pas exactement en termes de lutte, mais de manière à saisir qu'est-ce que ça... En quoi... Voilà, parce que l'idée qu'on a de la résistance, c'est une idée, une idée glorieuse. Là c'est pas... C'est autre chose. C'est autre chose, quoi. Enfin, on en rediscutera peut-être.
Ouais. Bon, ben, je prends la parole. Bonsoir d'abord. Merci d'être ici. Donc, moi, je vais vous parler d'autre chose, plutôt du présent dans lequel on est, peut-être de l'avenir. Qui sait, si je ne me trompe pas, on verra bien. Voilà, alors je vais commencer par des petites remarques sur rêve et politique, puisqu'il s'agit de deux notions qui sont, je pense, à la fois étroitement reliées et en même temps qui sont en tension. Alors le lien, c'est que la politique, du moins dans les sociétés où on élit nos gouvernants, ça ne se cantonne jamais à la gestion de l'existence, de ce qui existe, du monde existant, du monde présent. Derrière toujours toute politique, il doit y avoir des projets de société qui renvoient forcément à une part de désir, d'utopie ou de rêve au sens large. Tout engagement politique, en effet, se nourrit au moins du rêve d'un monde meilleur. Tous les dirigeants qu'on a proposent une vision d'avenir pour un avenir meilleur que ce que proposent leurs concurrents. Ça, c'est pour le lien. Et bien sûr, pour la tension, c'est que le rêve, c'est quand même le domaine de l'imaginaire. L'expression du désir, on l'a vu avec Freud vite fait, voire du fantasme, c'est-à-dire que c'est le contraire de la réalité. Or, la politique, c'est se confronter à la réalité. On n'a pas le choix, c'est une activité qui se fait dans le monde réel, dans le monde tel qu'il existe. Alors que le rêve, c'est ce qui s'oppose justement au monde réel. On parle parfois de rêve comme d'un mécanisme de fuite par rapport à la réalité. Alors cette tension entre rêve et politique, c'est ce qui conduit plein de gens, les réalistes on va dire, à dire que du coup la politique n'est pas faite pour les doux rêveurs. Et elle l'est d'autant moins que vouloir réaliser par exemple des rêves complètement irréalisables, des rêves délirants on va dire, vouloir réaliser politiquement des rêves délirants, risque de nous conduire à détruire le monde existant au nom d'une chimère. C'est exactement ce qu'on reproche en général aux utopistes. C'est un argument qu'on entend souvent et qui a une part de réalité, je pense. Donc voilà ce qui est en général reproché par les réalistes, on va dire, aux utopistes. Alors, pour résoudre cette tension entre le rêve et la réalité, sachant qu'il y a toujours du rêve dans la politique, la bonne manière, ce serait... de se dire qu'il faudrait avoir en quelque sorte des rêves réalistes, des rêves non délirants, ce qui serait la seule garantie que ces rêves ne soient pas destructeurs ou nihilistes. Alors, avec un brin de provocation, et après cette petite mise en jambe, je vais défendre une idée qui va peut-être vous paraître paradoxale ce soir, je l'espère du moins, c'est que je pense que ceux qui se prétendent réalistes aujourd'hui, ceux qui gèrent l'ordre établi tel qu'il existe, je pense qu'en fait, c'est eux qui défendent aujourd'hui un rêve irréalisable et un rêve destructeur, et que ce rêve qui hante à la fois nos dominants, mais bien au-delà, puisqu'on les élit, donc nous-mêmes, hein, en quelque sorte, tout le monde, il a peut-être un lien avec le saccage en cours de nos conditions de vie, sous la forme, bien sûr, de la crise sociale et écologique qui est en cours déjà et qui, visiblement, n'est pas prête de se calmer. Et en revanche, je pense que ceux que l'on qualifie aujourd'hui d'utopistes, de manière très générale, et moi aussi parfois, sont ceux qui peut-être sont aujourd'hui ceux qui peut-être défendent un rêve réaliste et constructif, justement à l'heure de l'anthropocène. Alors, je vais essayer de vous montrer ça en opposant deux imaginaires de liberté, un rêve de délivrance qui nous entrait et qui nous conduirait à, qui sera en lien avec la destruction en cours, et un rêve d'autonomie matérielle qui me semble relégué très souvent, considéré comme totalement utopique, irréaliste, et un rêve de doux rêveur, justement. Donc, pour montrer tout ça, je vais m'intéresser à l'un des rêves politiques par excellence, justement, le rêve de liberté, en me demandant justement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, du rêve de liberté. Alors, bon, la réponse semblerait aller de soi, puisque à l'issue du combat titanesque qui a eu lieu au XXe siècle entre le socialisme et le libéralisme, manifestement, le libéralisme a complètement gagné la partie. Et donc, où en sommes-nous de la liberté aujourd'hui ? Nous en serions au triomphe du libéralisme, marqué par le fait que même dans notre pays, comme dans la plupart des pays du monde, même les partis socialistes sont devenus libéraux, voire ultralibéraux. Je pense néanmoins que les choses sont un petit peu plus complexes, parce que paradoxalement, il me semble que la conception libérale de la liberté a perdu aujourd'hui tout fondement. Et je voudrais en prendre comme argument l'affaire Snowden, donc qui a éclaté en 2013. J'espère que vous voyez qui est à peu près Snowden, c'est quand même assez connu. Donc c'est un analyste de la RSA, de la NSA, l'agence de surveillance états-unienne, qui a dévoilé le programme d'espionnage de masse de toutes les télécommunications mondiales que mis en place par les États-Unis. Alors, en fait, donc, il a fait des révélations absolument incroyables, mais en réalité, il n'a rien révélé. En 2013, il y avait des dizaines et des dizaines de bouquins, même en français, hein, pas seulement en anglais, sur l'espionnage généralisé qui était en train de se mettre en place grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y avait des ouvrages en pagaille, des enquêtes de journalistes, etc. Alors, bon, lui, il n'a pas révélé grand-chose, mais il a quand même, je pense, révélé quelque chose de très important sur le plan philosophique. Ou plutôt, enfin, il l'a révélé bien malgré lui, et pas vraiment lui-même, c'est plutôt l'affaire Snowden qu'il a révélé. C'est-à-dire que, bon, il a mis en évidence le fait qu'il n'y avait plus de vie privée inviolable, ce qui était un des dogmes pointe centrale de la conception libérale de la liberté, mais son affaire, l'affaire Snowden, a révélé autre chose, c'est que tout le monde s'en foutait. Il n'y a pas eu de mouvement massif de levée de bouclier mondial, quelques manifs aux États-Unis, sporadiques, et en Allemagne. En France, il ne s'est pas passé grand-chose, patrie des droits de l'homme ou pas, pays libéral ou pas. Ça, les révélations de Snowden ont suscité surtout visiblement de l'indifférence. On peut comparer par exemple ça au tollé suscité par le projet Safari d'interconnexion des fichiers administratifs français en 1974, qui avait provoqué une telle levée de bouclier qu'il avait fallu que le gouvernement avait retiré le projet, mis en place, créé une loi informatique et liberté qui a mis en place la fameuse Commission nationale de l'informatique et des libertés. Signe qu'il y a bien un problème entre informatique et liberté de nos jours. Donc ce qu'a révélé l'affaire Snowden, c'est que finalement, bah, voilà l'inviolabilité de la vie privée qui avait été constituée comme le cœur de la liberté, par exemple dans l'opposition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Hein, la liberté de l'Ouest, c'était qu'on n'était pas espionné par le KGB, en gros. Bon, bah, cette inviolabilité de la vie privée ne serait plus au cœur de notre conception de la liberté. Désormais, nous savons tous que notre sphère privée s'est terriblement restreinte et qu'elle est totalement perméable à l'espionnage électronique de masse. Pour deux raisons, en fait, c'est des raisons très profondes, hein, c'est pas juste le projet de la NSA. D'abord, il y a une série d'évolutions technologiques, je vous ai cité la révolution numérique, qui a facilité à un point absolument incroyable la collecte et le traitement des informations, de telle sorte qu'elle donne des moyens dont le KGB aurait tout simplement rêvé, mais qu'il n'avait pas à cette époque-là. En fait, c'est des évolutions qui ont automatisé littéralement la surveillance et massifié. Et la deuxième raison de cet effondrement de la conception libérale de la liberté basée sur l'inviolabilité de la vie privée, c'est toute une série d'évolutions juridiques, précisément depuis les années 70, selon les juristes qui appellent d'ailleurs cette période entre nous aujourd'hui et puis le début des années 80, qui appellent ça les 30 honteuses, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une évolution, toute une série de dispositifs juridiques liberticides pour accompagner justement le développement de ces technologies qui pose des problèmes en termes de liberté. Et puis, bien sûr, depuis 2001, il y a le terrorisme qui suscite, lui aussi, des projets de plus en plus liberticides qui sont dénoncés par beaucoup d'associations d'avocats dans le monde entier. Donc, nous sommes dans la situation étonnante suivante. Nous vivons à l'heure du triomphe mondial du libéralisme, qui serait devenu la pensée unique de notre temps, et de l'effondrement de la conception libérale de la liberté qui était basée sur l'inviolabilité de la vie privée, puis effondrement de cette conception, puisqu'elle a perdu justement son fondement social, l'idée même de vie privée. Google ne cesse d'affirmer, et plein de gens avec lui, la vie privée n'existe pas. Alors, à partir de ça, qu'est-ce qu'il faut penser ? Moi, je pense que les choses sont encore plus complexes que ça, parce que nous continuons, malgré tout, à nous sentir libres. La plupart d'entre nous, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de levée de bouclier ou de tollé à la hauteur de ce qu'aurait espéré, j'imagine, Snowden. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Il faudra en conclure peut-être que la liberté est en train de changer de sens, comme ça a eu lieu plusieurs fois dans l'histoire, hein, la liberté des anciens, la liberté des modernes, c'est un petit peu des clichés, mais ça correspond quand même à quelque chose. Et donc, on serait dans une période de gestation d'un nouvel imaginaire de la liberté. Voilà, en tous les cas, c'est ma conviction, ou c'est mon hypothèse de base, et c'est ce que je voudrais essayer de montrer. Et, mais alors, pose la question, comment savoir qu'on est dans une période de gestation d'un nouvel imaginaire de la liberté, ou que la conception libérale de la liberté va peut-être être remplacée par une autre conception ? Comment le savoir ? Vu que justement nous n'en sommes qu'au début d'un processus et que là il nous faudrait connaître littéralement l'avenir, et je ne lis pas dans le marc de café ni dans les boules de cristal. Donc pour faire des pronostics, aujourd'hui on estime, il y a plein de méthodes différentes, j'en ai défendu une dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle La fabrique des derniers hommes, je vais en utiliser une autre aujourd'hui qui s'appelle la méthode des signaux faibles. On essaye d'analyser des phénomènes qui semblent anodins, de faible importance, dans l'idée que tous les grands événements sont précédés de petits signes annonciateurs et qu'il faudrait faire en matière de prospective sociale et politique un petit peu comme les sismographes, essayer de déceler les tremblements imperceptibles du sol sous nos pas pour annoncer les grands tremblements de terre. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de faire ce soir ? En me basant sur deux mouvements politiques qu'il me semble possible de considérer comme des signaux faibles d'un changement de la conception de la liberté. Pourquoi ? Parce que ce sont deux mouvements qui ont deux points en commun. D'une part, ils suscitent un intérêt médiatique, public assez énorme et complètement exagéré par rapport au nombre dérisoire de personnes que ces mouvements impliquent en réalité. Donc peu de gens qui font énormément parler d'eux. Et donc, ce qui est le signe que leurs idées nous parlent, nous attirent, nous séduisent, que tout ça parle à notre imaginaire et que peut-être que nous finirions par penser la même chose qu'eux dans quelques années. Ces deux mouvements, c'est le mouvement transhumaniste et le mouvement zadiste. Alors, bien sûr, ils n'ont rien à voir. Hein. On le voit, ils défendent même, c'est ce que je vais montrer, des idées de liberté diamétralement opposées. Mais je pense justement que dans leur contradiction, ils dessinent peut-être la problématique de la liberté qui sera la nôtre au XXIe siècle. Donc non plus celle de la vie privée, mais peut-être celle de la vie sur Terre. Être libre, est-ce être libéré, délivré des nécessités de la vie sur Terre, de notre condition humaine d'animaux terrestres, ou être libre, est-ce prendre en charge les nécessités de la vie sur Terre, c'est-à-dire assumer notre condition d'animaux terrestres. Alors, je vais commencer par le transhumanisme. J'imagine que vous avez tous entendu parler de ce mouvement. Quand même, enfin, on en parle beaucoup, quand même beaucoup dans les médias. Il y a des dizaines de livres là-dessus. C'est un grand succès de librairie mondiale actuellement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire et des acteurs du mouvement transhumaniste. Je vais juste rappeler qu'il s'agit d'un mouvement essentiellement composé de scientifiques, d'ingénieurs, d'entrepreneurs et de médecins, qu'ils sont tous fascinés par les progrès exponentiels de la science, de la technologie et de l'industrie. Troisièmement, qu'ils espèrent pouvoir transformer l'humain au sens de l'améliorer ou de l'augmenter, enhance en anglais. Et quatrièmement, qu'ils espèrent faire cela par le biais de nouvelles technologies issues de ce qui est appelé aujourd'hui les NBIC, donc la convergence entre nanotech, biotech, technologie de l'information et de la communication et sciences cognitives, c'est-à-dire les secteurs de pointe de la recherche technoscientifique aujourd'hui. Voilà, il y a une association mondiale qui s'est rebaptisée en 2008 Humanity, avec le signe plus, le tout dans une arrobase, ce qui symbolise bien à la fois les nouvelles technologies de l'information, l'augmentation de l'humain, etc., etc., etc. Alors, en pratique, leur projet, c'est quoi ? Ils disent, ils prétendent, il s'agit de vaincre le handicap physique grâce à des prothèses de plus en plus perfectionnées, qu'il s'agisse de membres ou d'organes, de pacemakers ou de jambes artificielles. Il s'agit de vaincre la maladie grâce aux thérapies géniques ou à des implants de puces dans le cerveau pour lutter contre Alzheimer. Il s'agit de surmonter les troubles psychologiques et toutes les formes de mal-être intérieur ou de dépression par des nouvelles molécules ou des implantations de puces dans le cerveau. Et finalement, il s'agit carrément de dépasser la mort. La mort de la mort, c'est ça le slogan des transhumanistes français, c'est le nom de leur petit bulletin mensuel qu'ils distribuent. C'est aussi le livre d'un de leurs auteurs favoris, donc le publiciste, entrepreneur, Laurent Alexandre, qui publie, qui a des chroniques dans Le Monde, etc., etc., et qui s'est donné ça comme objectif d'ici une cinquantaine d'années. Bien sûr, oui, la deuxième version de dépasser la mort, c'est l'idée défendue par certains transhumanismes qu'on va bientôt pouvoir télécharger notre esprit, c'est-à-dire nous-mêmes, selon eux, sur un disque dur et qu'on pourra vivre éternellement, etc. Ce sera merveilleux. Dans un ordinateur. Ça, c'est sur le côté un petit peu défensif, là, tous les mots dont ils vont nous débarrasser. Et puis, sur le plan vraiment du rêve total, c'est que, sur un plan très positif, il va s'agir d'augmenter par tous les moyens chimiques, mécaniques, électroniques, informatiques possibles, nos performances physiques et intellectuelles, notre mémoire, et puis finalement même accroître enfin notre liberté de choix, qu'il s'agisse de choisir nos caractéristiques physiques ou celles de nos enfants, changer de sexe, designer nos bébés, à remplacer nos membres par des prothèses plus efficaces, etc., etc., etc. Bref, le transhumanisme, ce serait le projet de dépasser ce que nous avons appelé pendant des millénaires la condition humaine, en surmontant les maux et les limites qui y sont traditionnellement associés, parmi lesquels la maladie, la souffrance, la mort, l'imperfection, la finitude. Alors, bien sûr, quand on raconte tout ça, ça fait sourire, hein, d'abord. Enfin, c'est quand même plutôt... Ça, c'est plutôt délirant. Et on ne peut pas ne pas penser aux racines religieuses de tout ça. Un nombre absolument conséquent de religions ont promis de délivrer l'humanité de ces maux, de la mort, de la maladie, la vie éternelle, le paradis sur terre, etc. Ou plutôt, à défaut de le promettre, elles ont été hantées par ce rêve de dépasser la condition terrestre, c'est-à-dire de dépasser la condition de créature imparfaite que nous sommes, et de dépasser les souffrances qui sont liées à notre nature d'être vivant, d'être corporel, d'être charnel, soumis au même sort que les animaux. Ces religions, c'est ce qu'on appelle, en théologie, en histoire des religions, les religions de délivrance. Judaïsme, christianisme, hindouisme, bouddhisme, gnose, manichéisme, orphisme, etc. Vite fait, pour vous rappeler, vous connaissez tous la Bible. C'est quoi la condition humaine dans la Bible? Elle est posée dans la Genèse. À l'origine, nous vivions au paradis, nous étions immortels, nous n'avions pas besoin de travailler, nous n'avions même pas de besoin ni maladie, etc., etc. C'était Adam et Ève. Nous avons mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. Nous sommes punis par Dieu, c'est la chute, et nous nous retrouvons sur terre. C'est la condition terrestre qui commence, qui est caractérisée par trois malédictions. Le travail physique, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Les douleurs liées à l'enfantement, dans la peine, tu accoucheras. Et bien sûr, la mort, poussière, tu redeviendras poussière.
Et ton époux te dominera aussi.
Ça, bien sûr, il y a aussi, j'ai remarqué parce que j'ai relu les textes il y a très peu longtemps, non seulement la violence entre hommes et femmes, mais aussi la zizanie entre les êtres humains et les animaux, puisque le serpent est maudit et désormais il sera haï des femmes. Alors bien sûr, très vite fait, cette délivrance que les religions qui hantaient les religions de délivrance, elle n'était pas promise en ce monde, ici-bas, dans cette vie, mais toujours dans une autre vie, après la mort, c'est-à-dire dans un au-delà, pour les religions qui y croient, ou dans une forme de royaume des cieux. Il s'agissait donc d'atteindre une condition céleste, celle de pur esprit et de félicité parfaite, mais tout ça est reporté dans un autre monde, dans ce qu'on appelle l'au-delà ou la sphère spirituelle. D'où la critique matérialiste de la religion comme opium du peuple. Au lieu d'inciter à changer cette vallée de larmes qu'est le monde, la religion console de nos malheurs en reportant nos espérances dans l'au-delà. Mais ce faisant, ce que Marx n'avait pas vu là-dedans, c'est que, en faisant ça, la religion rendait aussi la vie en ce monde, ici-bas, en quelque sorte supportable et acceptable. Elle réconciliait avec le monde et permettait d'atteindre une certaine sérénité. En quelque sorte, la prise de conscience par les religions des maux de la condition humaine, de notre finitude, de notre imperfection, de nos limites et des contraintes qui s'imposent à nous en tant qu'animaux terrestres, elle ne conduisait pas, sauf chez les fanatiques, à une haine du monde, à une haine du corps ou à une haine de la vie, mais plutôt à une forme d'acceptation patiente, voire d'accueil de la vie dans toute sa dimension tragique. Alors, si les promesses transhumanistes évoquent bien les religions de délivrance, il y a néanmoins des grosses différences entre les deux. D'une part, il n'y a pas du tout cette dimension d'acceptation patiente des maux de la condition terrestre dans le transhumanisme. Justement, il faut accélérer l'innovation là pour en finir avec tout ce bourbier dans lequel nous barbontons depuis des millénaires. Et par ailleurs, bien sûr, le transhumanisme, c'est un mouvement scientiste, progressiste, technophile, donc tout ce qu'il y a, au moins en apparence, de plus contraire aux religions, qui étaient anti-scientifiques et conservatrices. En réalité, c'est plus complexe que ça. En fait, le transhumanisme, c'est juste le dernier avatar de notre religion préférée dans l'Occident moderne, à savoir ce qu'on appelle la religion du progrès, la foi dans le progrès, le credo progressiste, qui a sécularisé les espérances religieuses de délivrance. Croire au progrès, c'est croire, en gros, que l'accumulation de connaissances scientifiques va augmenter notre maîtrise technique du monde et nous permettre d'améliorer le monde, de rendre le monde meilleur. On sait que la réalité est plus complexe aujourd'hui, depuis au moins deux guerres mondiales, qui, avec des moyens de plus en plus scientifiques et rationnels, ont constitué tout simplement les sommets de la barbarie dans l'histoire humaine. Je pense à la guerre chimique, à la guerre atomique et bien sûr aux exterminations massives qui sont allées avec. Et on sait que la réalité est plus complexe, a fortiori aujourd'hui, car le résultat de ce vaste mouvement d'accumulation des connaissances, de moyens techniques de maîtriser la nature, de progrès économique, etc., etc., notamment depuis l'ère industrielle qui a mis en œuvre tout cela à une échelle mondiale, eh ben, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. C'est-à-dire l'idée que le progrès en tant que accroissement de la puissance humaine sur la nature via l'industrie est devenu littéralement une force géologique, la force qui détermine désormais et modifie l'avenir de notre planète. Alors, c'est quoi l'anthropocène, vite fait? Je pense que vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de ça. En gros, c'est la crise sociale et écologique dans laquelle on est déjà et qui, a priori, ne va cesser de s'aggraver. Elle a trois aspects. L'extinction en masse des espèces, le dérèglement des cycles de la biosphère permettant la vie sur Terre et notamment la vie humaine, et l'épuisement des ressources. Et bien sûr, ces trois évolutions en cours, si on les rassemble tout ensemble, et que personne n'arrive ni à stopper, ni même à freiner, ne serait-ce qu'aujourd'hui, dessine des perspectives d'avenir terrifiantes face à des tensions géopolitiques, internationales, absolument incroyables. Pour se figurer quand même ce que c'est l'anthropocène, il faut se rappeler qu'il y a eu 6 extinctions en masse des espèces sur la planète Terre. Les scientifiques estiment qu'on peut faire des hypothèses plausibles sur les causes de 2 extinctions en masse qui auraient été l'impact de météorites géantes sur la croûte terrestre qui auraient engendré des incendies absolument effroyables, du gaz carbonique dans l'atmosphère et donc une glaciation qui s'en est suivie, etc., etc. Ce serait comme ça que seraient morts les dinosaures notamment. Donc il faut se dire l'impact du progrès industriel depuis un siècle, de cette accumulation de moyens techniques et de moyens scientifiques et économiques de production, serait équivalent à l'impact d'une météorite sur notre planète. Tel serait l'impact, finalement, des sociétés dans lesquelles nous vivons. Alors, face à cela, bien sûr, le transhumanisme, il faut l'interpréter comme la réaction immunitaire du monde technoscientifique et industriel qui consiste à, dans un monde de plus en plus terrifiant, à accroître les promesses les plus mirifiques jusqu'au délire et au fantasme, d'un côté, et puis deux, à détourner de toute critique du progrès scientifique et industriel au motif que seul un progrès accéléré nous pourra nous sauver des périls terribles qui nous attendent. Et c'est à peu près les arguments qu'on retrouve les plus courants dans le discours transhumaniste. En fait, ce sont les mêmes arguments que ceux qui ont accompagné la croyance au progrès depuis plusieurs siècles. On peut le dire vite fait 3 fois. D'abord, c'est des promesses mirifiques. Le progrès, ça a toujours été ça, des avenirs meilleurs, un avenir radieux, etc., qui réalise les désirs de délivrance les plus vieux de l'humanité. À ceux qui doutent vis-à-vis de ces promesses ou qui ne partagent pas ces rêves, les transhumanistes, comme tous les progressistes, disent ensuite « mais de toute façon, c'est inéluctable, on n'arrête pas le progrès ». Et à ceux qui dénonceraient un tel fatalisme, les transhumanistes en viennent à dire « de toute façon, c'est notre seule planche de salut, vu les modifications de notre environnement ». Seuls ceux qui seront transformés pourront survivre sur Terre, c'est-à-dire supporter les conditions de vie dégradées de la vie sur Terre telle qu'elle s'annonce aujourd'hui, ou bien quitter la Terre, ce qui va supposer de supporter les conditions d'un transport spatial. On a l'air de rigoler, mais bien sûr, vu la situation catastrophique, c'est précisément une des hypothèses qu'envisagent les courants transhumanistes, de coloniser des autres planètes, et pour ça, de modifier notre corporéité pour que cela soit possible. Et bien sûr, moi je ne peux pas mettre en lien cette idée, ce rêve ou ces fantasmes de quitter la planète Terre, de ne pas le mettre en lien avec ce fantasme d'abandonner notre condition terrestre. Et peut-être aussi de le mettre en lien avec le sort que nous faisons à cette planète actuellement. Je ne me rends pas du tout compte, j'ai pas du tout de temps et j'ai pas d'horloge interne. 5 minutes ? D'accord. Bon, alors, je vais être beaucoup plus rapide sur le mouvement zadiste. Je suis désolé. Hein. En même temps, on est à Poitiers, donc vous avez une ZAD pas très, très loin d'ici. Vous avez dû en entendre parler aussi. D'abord, j'avais beaucoup moins de choses à dire. D'abord, le zadisme, c'est une pratique politique et non pas une doctrine. Donc, il n'y a pas grand-chose à en faire. Le zadisme, ça n'existe pas. Il n'y a que des occupants de zones à défendre et qui sont de tout acabit. Il y a des militants de toutes sortes, à peu près de toute provenance politique, de gauche, mais aussi de droite, hein, bizarrement. Enfin, voilà, contrairement à ce qu'on pense. Voilà. Et la seule chose, je dirais, qui fédère manifestement tous ces gens, ou en tous les cas, un des mots qui leur sert de point de rassemblement, c'est la notion d'autonomie. Ils la prennent en deux sens. D'abord, dans le sens classique, l'autonomie politique, autonomos, se donner ses propres lois, c'est-à-dire agir par nos propres moyens, se fixer nos propres fins, se donner nos règles. Et donc, l'autonomie, c'est à la fois l'indépendance vis-à-vis des institutions politiques existantes, partis, syndicats, États, etc. C'est à la fois la pratique de l'action directe, non médiatisée par des représentants ou des institutions. Et c'est aussi la pratique de l'assemblée, la démocratie directe ou radicale, c'est-à-dire l'autonomie au sens de Castoriadis. Mais le mouvement des ZAD prend aussi l'autonomie dans un autre sens, dans un sens beaucoup plus récent, parce que quand il parle d'autonomie alimentaire, médicinale ou énergétique ou architecturale, autonomie, ce n'est pas se donner ses propres règles, c'est pourvoir à nos propres besoins, produire sa nourriture, se soigner par soi-même, construire sa cabane, se procurer ses sources d'énergie, au lieu de dépendre de ce fameux système industriel qui nous conduit dans le gouffre. Alors, je vais essayer, du coup, de conclure en 2 minutes, ce qui va être dur, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer. Alors, on voit que ce concept de liberté, enfin, voilà, on voit que ces deux mouvements, le transhumanisme et le mouvement des ZAD, sont visiblement animés par deux idées de liberté. L'une que j'ai ramenée à l'idée de délivrance, qui a des racines religieuses, et qui consiste à vouloir dépasser, se décharger des nécessités de la vie sur Terre, avec tout ce qu'elles impliquent de contraintes, de souffrances ou de limitations par rapport à nos désirs les plus fantasques et les plus fantasmatiques. Et donc ça, c'est pour le transhumanisme. Et de l'autre côté, on a un mouvement qui défend une autre idée de la liberté, l'autonomie, qu'il faudrait donc définir quasiment comme l'opposé de la conception de la délivrance transhumaniste, comme le projet de prendre en charge nous-mêmes nos nécessités d'être terriens, d'habitants terrestres, se nourrir, se soigner, construire son habitat avec ses propres moyens et en étant le plus possible indépendant du système industriel. Alors cette autonomie, je l'ai identifiée par le biais du, au mouvement des ZAD. En fait, je dirais que elle est propre à un mouvement beaucoup plus large qui serait le mouvement écologiste, en général au sens de l'écologie politique telle qu'elle est née, telle qu'elle s'est développée à partir des années 60-70, où il y avait toujours eu cette idée de faire les choses par soi-même, de sortir du système industriel. Voilà, ça va bien au-delà des ZAD, et ça va bien au-delà aussi parce que finalement cette idée d'autonomie comme prise en charge de nos nécessités d'animaux terrestres, d'êtres qui vivent sur Terre, c'est finalement la pratique de la liberté telle qu'elle a été mise en œuvre par la plupart des classes populaires, notamment paysannes, dans les sociétés prémodernes où l'on était extrêmement fier de prendre en charge nos affaires nous-mêmes, d'être indépendant matériellement, de construire sa maison, de fabriquer sa nourriture, et où la liberté, c'était cela, et le fait de ne pas être ponctionné par des élites rapaces. Alors, avec ces deux concepts d'autonomie et de délivrance, on voit finalement se dessiner deux imaginaires de liberté très différents. Ce sont les deux rêves politiques, les deux grandes utopies, qui sont amenées, je pense, à s'affronter désormais. L'une propose de quitter la Terre ou de renoncer à la condition humaine, et l'autre propose tout simplement de revenir sur Terre, c'est-à-dire d'assumer notre condition humaine et de sortir des fantasmes délirants de délivrance tels qu'ils ont alimenté, je pense, le système industriel et cette idée de progrès qui nous fait accepter toutes les innovations et technoscientifiques possibles et inimaginables. Et bien sûr, dans les conditions de l'anthropocène dans lesquelles nous sommes plongés désormais et dans lesquelles nous serons plongés toujours plus, J'estime que de ces deux utopies, l'une est réaliste et constructrice, constructive, et l'autre est délirante et destructrice. C'est-à-dire que je pense que les forces économiques, technologiques, industrielles qui saccagent la planète aujourd'hui sont portées par le rêve de délivrance, un rêve qui anime toute l'idéologie industrielle, et que face à cela, c'est bien plutôt l'utopie de l'autonomie, avec toutes les difficultés qu'elle implique aussi. Hein. Il s'agit bien d'un imaginaire. Hein. Dans les deux cas, être totalement autonome ou être totalement délivré, je pense que c'est du délire, mais il s'agit d'imaginaire. Mais justement, dans cette lutte des imaginaires telle que je la vois se profiler de nos jours, je pense que si on veut léguer un monde vivable et une planète habitable à nos enfants et à nos descendants à plus long terme, c'est cet imaginaire de l'autonomie matérielle qu'il va falloir alimenter et sortir de ce rêve délirant de délivrance et d'abandon de la condition humaine. Je vous remercie.
On va passer aux échanges, aux réactions, aux questions. Éventuellement, Anne, sur justement cette question d'autonomie politique, je pense au projet, tu me vois venir, au projet de révolution française. Est-ce qu'on enfin, parce qu'il y a aussi la frontière privée-publique qui a été soulevée par en fait, chacun de vous, qui est intéressante d'ailleurs dans la question d'émancipation et d'autonomie et comment on situe. Je ne sais pas si tu peux contextualiser cette pensée-là. C'était peut-être la question du rêve politique dans la Révolution française, c'est justement ce projet de restructuration sociale.
Oui, peut-être que la façon dont j'ai posé le problème en partant, bon, pour des raisons aussi de commodité, hein, de l'Assemblée, mais aussi parce que c'est un espace de convergence de discours divers, a laissé de côté, oui, l'aspect de la politisation massive et des formes de fonctionnement, on peut dire, de démocratie directe, enfin, ou d'aspiration à la démocratie directe dans le cadre notamment des sections parisiennes, enfin dans toutes les grandes villes, donc sur la base de fonctionnements qui sont électoraux, puisque les sections, c'est les lieux dans lesquels on délibère ensemble et on vote ensemble, mais avec une revendication qui va très au-delà du droit de vote et qui peut aussi se passer du droit de vote, puisque une partie de la population est exclue du droit de vote, et particulièrement de la population urbaine jusqu'en 92. Elle est exclue aussi du droit de porter les armes, et ça fait partie de ce contre quoi elle va protester et aussi enfin refuser de se plier. Alors effectivement, il y a une construction et qui, de fait, va alimenter alors du rêve pour d'autres générations et va être va construire un imaginaire autour de cette capacité du peuple à s'auto-organiser et à délibérer, à produire des textes, à produire des délégations, à produire aussi de la pression politique sur les élus, jusqu'au point d'amener l'Assemblée à se séparer d'une partie de ses élus en juin 93. Peut-être c'est ce que tu désignes. Après, tout ce qu'il y a dans le zadisme de... notamment d'organisation autour de la consommation. C'est quelque chose qu'on voit en partie et qui n'est pas neuf, hein, qui n'apparaît pas avec la Révolution française, autour des questions du marché, de limiter, enfin d'organiser par les gens qui protestent, notamment contre les prix, d'organiser eux-mêmes les ventes des grains. C'est des formes de protestation qui datent de l'Ancien Régime, mais avec finalement des mises en œuvre politiques différentes, puisque ça va déboucher sur l'idée des greniers d'abondance, de mettre en commun des stocks et de répartir ces stocks de façon démocratique avec l'idée du juste prix. Donc, en partie des mises en œuvre de ce qu'on a pu appeler l'économie morale, avec cette idée du prix juste. Je ne sais pas si c'est ça dont tu voulais parler.
Le fonctionnement collectif qui naît avant la Révolution, d'ailleurs.
Mais qui prend des...
Mais qui casse, si tu veux, ce système de domination, et après qui s'inscrit dans un discours politique, oui, qui prend des formes politiques.
Qui débouche sur des mises en œuvre politiques qui n'ont pas été de très longue durée, mais qui ont existé, et qui ont d'ailleurs fait très peur aux propriétaires, et ont été remises en cause aussi au nom de la liberté, et de la liberté du propriétaire. C'est ce qui me vient à l'esprit.
Mais, pardon. Non. Merci.
Oui, par rapport à la notion de rêve, vous avez dit par rapport à la Révolution française que vous avez finalement assez peu retrouvé ce terme. Je me demandais si ça pouvait aussi s'expliquer par le fait que peut-être qu'avant Freud et ses travaux, peut-être que c'était une notion... qu'on entendait moins, et je me demandais aussi quand Saint-Just, par exemple, dit « le bonheur est une idée neuve en Europe », s'il n'y a pas quand même cette idée-là de rêve à construire, à bâtir, qui est présente implicitement.
Oui, nous pouvons qualifier ça de rêve, mais ce que j'ai essayé de dire, c'est que, justement, pour lui, ça n'est pas un rêve. Bon, il essaie de mettre en place ce qui n'est pas un projet utopique, ce qui est pour lui un projet politique, et avec la ferme détermination de créer un rapport de force politique qui permette de mettre en œuvre. C'est en ce sens que l'expression de rêve est dilue énormément de choses. Donc... je trouve qu'elle est un peu gênante par rapport à cette révolution en acte qui est constamment une suite de rapports de force concrets, et y compris ceux qui écrivent dans l'urgence d'ailleurs, écrivent à des fins pratiques. Et donc il y a un tempo de la révolution, d'ailleurs c'est assez intéressant, il y a un collègue qui avait fait une recension des textes que l'on peut dire utopiques, et qui montre bien que dans la période révolutionnaire il y a très peu de textes de ce type. Alors nous on peut qualifier d'utopique avec du parti pris idéologique, parce que généralement il s'agit soit de valoriser, soit de condamner. Souvent ça a été utilisé pour condamner, y compris pour dire ce sont des projets, y compris fous, délirants. Enfin, je ne sais pas si vous avez en tête, par exemple, les projets éducatifs de Le Pelletier de Saint-Fargeau, ou même les projets concernant la vie familiale chez Saint-Just. Y a énormément de choses qui dérangent par rapport à peut-être ce qui a triomphé, qui est une vision très individualiste de la vie familiale et notamment de l'éducation des enfants. Et cette idée qu'il y a chez Le Pelletier, mais de retirer les enfants très jeunes à leur famille, ce qu'on va retrouver dans les kibboutz, par exemple, parce que l'enfant, c'est un bien de la société, et c'est un bien de tous, et il faut l'éduquer pour être un citoyen dans un monde d'égalité des citoyens, et pour ça il n'y a que des structures communes qui vont rendre ça possible. Donc c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, on peut qualifier ça de toute, c'est une ambition de bonheur global, dire c'est de l'ordre du rêve, mais c'est dans l'horizon de la Révolution française, il y a révolution le temps qu'on cherche, que l'on pense qu'on va pouvoir le mettre en œuvre. Et il y a une cascade d'ambition qui se casse du fait des contradictions et qui recrée de nouveaux agencements politiques qui peut-être à leur tour vont se casser du fait des contradictions, et ce qui fait que certaines ne seront pas mises en œuvre, et de ce point de vue-là vont peut-être rester des utopies redoutées des uns et adorées des autres, justement parce qu'elles n'ont pas été confrontées à l'épreuve du réel. D'où, comme le projet de Saint-Just ou la constitution de l'an 1, qui est l'idéal démocratique pour tout le 19e siècle, justement parce qu'elle reste un projet, puisqu'elle a été écrite et pas mise en œuvre. Mais ce que je voulais, c'était l'articulation politique-rêve.
Mais je me demande justement, quand on entend d'une part... ce qui se passe pendant la rupture de la Révolution française, et puis ces expériences qui sont menées aujourd'hui du côté des ZAD, etc. On se dit que... Enfin, je me disais en vous écoutant qu'on a l'impression qu'il y a eu cette rupture révolutionnaire de 1789 et que nous sommes encore dans ce sillage. C'est-à-dire que c'est pas terminé, contrairement à ce que dit François Furet, c'est-à-dire qu'il dit voilà, la révolution est terminée. Mais ça veut pas dire que il va y avoir une nouvelle révolution, mais ça veut dire que l'impulsion qui est venue à ce moment-là, on est toujours dedans. Et du coup, parce que entre aujourd'hui et ce moment-là, il y a eu l'idée qui vient d'une certaine manière d'un certain marxisme et d'un léninisme surtout, qui a dit bon ben voilà, mais maintenant il y a eu la première révolution, maintenant il faut en faire une deuxième qui est la révolution prolétarienne, la fin, la société sans classe, etc. Et d'une certaine manière c'est comme si de nos jours très rares, et heureusement, sont à part Alain Badiou, pensent que voilà, il y a là quelque chose qui demande à être recommencé ou retrouvé, etc. C'est-à-dire cette idée d'une transformation radicale de la société par une prise de pouvoir et une organisation à partir d'un État pour faire un homme nouveau, parce que c'était quand même ça. Là, il y a quand même quelque chose qui ne prend plus. Et les ZAD et tout ce genre de mouvement, au fond, justement, n'ont pas de vision globale, ils n'ont pas d'ambition de prendre le pouvoir, disons, pour transformer radicalement la société. Mais alors, du coup, le problème, c'est que, et aussi par rapport à l'ampleur des questions qui nous sont posées, que vous avez posées, l'anthropocène, etc., du coup, on se dit, voilà, ça reste... Des aménagements intéressants minoritaires qui supposent de revenir à la campagne, alors que quand même il me semble que une grande partie de notre histoire, ça a été la construction des villes, et que que la question ne peut pas seulement se poser quand on a conscience des problèmes écologiques, par la terre. Enfin, évidemment, la condition terrestre est fondamentale, mais ça ne peut pas seulement se poser par faire nous-mêmes nos maisons, cultiver nous-mêmes, etc. Parce que d'une certaine manière, nous sommes héritiers des villes. Et que effectivement, c'est vrai que là où il y a sans doute une transformation, c'est que une grande partie de la politisation s'est faite à partir des villes, à partir des espaces urbains. Alors comment est-ce que vous voyez les choses avec cette question des villes, justement, par rapport à...
Alors, en tous les cas, là, c'est une question qui est régulièrement débattue. Moi, je ne connais pas, dans ce mouvement-là, Il y a une fraction des zadistes sont primitivistes. Mmh. Donc là, c'est vraiment, c'est même pas revenir à la campagne. La campagne, c'est l'horreur, c'est l'exploitation animale, c'est la violence faite à la terre, etc. C'est des quasi-bouddhistes qui devraient passer à souffler pour ne pas marcher sur des petites bestioles devant leur pas, là, comme une secte indienne le fait. Donc il y a pas trop cette idée-là. Par contre, le discours, il y a pas de discours contre les villes. Il y a même des liens complètement organiques. Là, moi, je suis allé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et il y a des liens complètement organiques entre Nantes, Nantes révoltée, donc un réseau de militants nantais et de syndicats, d'associations nantaises et la ZAD. Par contre, il y a un discours extrêmement fort sur les métropoles. Ça, c'est vrai qu'il y a une dénonciation totale des métropoles. Et en fait, du coup, je trouve ça intéressant, moi, parce que, métropole, Paul, c'est un mot très ancien, mais en fait, il désigne quand même une réalité très moderne, des villes gigantesques, etc. Et puis maintenant, les projets d'urbanisme très centralisateurs sur les territoires de nos métropoles actuelles. On veut Toulouse métropole, je ne sais pas si Poitiers va devenir Poitiers métropole bientôt. Sans doute, sinon ce sera avalé par Bordeaux métropole ou Marais Poitevin métropole, je ne sais pas très bien comment ils vont l'appeler. En tous les cas, il y a ça. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les villes telles qu'on les connaît, telles que je l'ai parcouru tout à l'heure, Poitiers, la plupart des bâtiments ont été construits par les gens d'ici, avec des matériaux d'ici, des techniques qu'ils connaissaient, etc. Il y avait énormément d'exploitation là-dedans. Déjà, la ville a toujours été un lieu où il y avait déjà l'argent, le pouvoir, etc. Mais ça ne différait pas beaucoup des villages qui étaient construits par les paysans eux-mêmes, avec les matériaux qui étaient à leur disposition autour, etc. C'est ça que je pense que les gens ont en tête dans Autonomie. Métropole et les villes construites non pas par les populations elles-mêmes, c'est finalement des phénomènes assez récents. Et puis même dans le monde entier, je crois que c'est extrêmement minoritaire. Je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais je pense que plus de la moitié des habitants de cette planète fabriquent leur habitat eux-mêmes avec les moyens qui leur sont accessibles. Alors dans les grandes villes, ça donne des bidonvilles, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est sûr que vu quand on habite dans une grande ville ou dans une métropole, tout ça peut paraître hallucinant. Mais finalement, les villes grecques, c'était quoi? C'était des villes de citoyens des champs, ce que en tous les cas Max Weber ou les historiens appelaient comme ça. 90% des gens qui votaient à l'Assemblée à Athènes, c'était des paysans, hein, tout simplement, hein, qui se regroupaient qui avaient un lieu commun d'organisation politique qui était la cité d'Athènes, qui était aussi le lieu où il y avait de l'artisanat. Les villes médiévales, Florence, Sienne, etc., sont encore dans ce cas-là. Il y a beaucoup plus de commerce, et la part du commerce qui a pris un rôle de plus en plus frappant, les artisans. Mais ce ne sont pas des réalités hors sol comme les mégapoles ou les métropoles actuelles. Et moi, moi, un petit peu dans cet esprit du mouvement des ZAD ou d'une réflexion sur les enjeux de l'anthropocène, je dirais que le problème, ce n'est pas d'opposer ville et campagne. En fait, il n'y a plus de ville, en réalité, il n'y a plus que des métropoles, il n'y a même plus de campagne, il n'y a plus que des zones périurbaines de consommation et de ressourcement. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être retrouver justement une réarticulation entre des lieux de production locales et des lieux d'organisation, de pensée, de diffusion des idées qui sont aussi locaux, en lien un petit peu organique avec leur arrière-pays, comme on disait autrefois.
Ce qui existe déjà sur le plateau de Mille Vaches, l'expérience des endroits où il n'y a justement pas de ville proche, les gens s'organisent autrement par un tissu associatif très fort, par un retour justement à une consommation locale. Ici, il y a un laboratoire d'économistes qui travaille justement à l'encontre de tout pour la métropole, qui fait l'éloge de la diversité et qui étudie comme des écosystèmes justement ces endroits où il y a une forme de résistance finalement à une économie libérale et centralisée à une métropole. C'est des exemples qui sont intéressants parce qu'ils les confrontent, ils font une sorte de cartographie un peu de ces lieux.
En tous les cas, moi, il me semble que dans les conditions vers lesquelles on va, le modèle des grandes métropoles qui hante tous les continents aujourd'hui. C'est juste, en effet, ces endroits-là seront désertés, je pense. Il ne sera plus possible d'y vivre, ou pour une infime minorité de gens, mais il n'y aura plus des mégapoles de 20 millions d'habitants quand le prix du baril de pétrole, ou les sources d'énergie, ou les sources de métaux, etc., qui sont intrinsèquement nécessaires pour la subsistance de ces villes, atteindront des prix aberrants. C'est une utopie, justement. C'est l'utopie destructrice dont il faut se séparer.
Juste pour dire, au niveau des ZAD, je ne suis pas certain que l'objectif de l'autonomie soit l'objectif en tant que tel. C'est-à-dire que c'est plus un retour vers un choix des dépendances qu'on accepte ou pas. Et là, on rejoint l'idée de campagne et ville. C'est-à-dire que la ville est vécue aussi comme un lieu d'ultra-dépendance, quoi. On dépend de tout. Au-delà de ça, je trouve que vous avez montré tous les trois qu'on ne rêve pas à partir de rien et qu'on rêve à partir de pratiques et de théories. Et je voulais en arriver rapidement à quelque chose que vous avez abordé au niveau de la Révolution française, c'est-à-dire que vous avez parlé d'une confrontation entre les théories des Lumières et des gens qui étaient plus dans la pratique, qui sont venus aussi débattre à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus ?
Non, c'est beaucoup... je pense que ce serait beaucoup trop... parce que tout ça, c'est très complexe, notamment là je pensais plus, si je peux me permettre, je vais répondre aussi à ce que disait Martine sur le fait que dans ce que nous vivons aujourd'hui, peut-être effectivement du fait de l'échec de la forme de la révolution bolchévique, ou de façon plus générale des révolutions communistes du XXe siècle, on comprend mieux que que notre histoire longue, elle est encore ouverte par cette révolution de 89-99. Et les problématiques sont en partie les mêmes, notamment celles de cette mise en œuvre des droits humains. Alors, il y a des caractéristiques... justement lié aussi aux Lumières, qui nous éloigne de ce que tu posais, qui est par exemple la question de l'État. C'est-à-dire que la Révolution française et je crois tous les acteurs de la Révolution française pensent qu'un État central pour un territoire, une nation... qui ne doit pas être autonome de la force politique, mais est un outil de redistribution et de cette égalité qui est souhaitée. Et avec ce qui a été beaucoup reproché sous forme de critique du jacobinisme, le fait que la loi est la même pour tous et que la loi, elle est une sur l'ensemble d'un territoire. Et là-dessus, les mouvements actuels sont quand même fondamentalement puis dans d'autres philosophies de critique de l'État comme potentiellement violent et se substituant justement aux initiatives des citoyens, et critique aussi, en tout cas mettre vraiment en cause comme quelque chose de producteur de liberté, puisque c'est on reste dans cet horizon effectivement de ces droits naturels, de liberté, d'égalité, ce cadre politique commun et justement de la loi commune et de ce une et indivisible. Et là-dessus, je crois qu'il y a vraiment des choses en ce moment qui justement se posent en termes neufs, alors que reste aussi vivant. Des tensions et des contradictions effectivement issues, c'est en sens que je disais peut-être issues des Lumières, parce que la contradiction majeure, c'est ces hommes des Lumières libéraux sont parfaitement, enfin presque tous, hein, il y a des convaincus que réellement, ce que nous promet peut-être encore M. Macron, la mise en concurrence et la circulation, ça créera de la richesse qui créera du bonheur. Et l'objectif du bonheur, le mot bonheur, il est très très présent. Je ne sais pas si vous êtes 18e-iste, au 18e, et ce n'est pas une visée qui est une création, pour le coup, des politiques révolutionnaires. En sens, Saint-Just, il est vraiment le produit d'une culture de son temps. Et ce qui se passe, c'est que par rapport à ces projets, leur mise en œuvre, très rapidement vont buter, mais dès 89, hein, avec la loi martiale en octobre 89, face au pillage des boulangeries. Et c'est une contradiction saisissante. Ça s'accompagne dans les campagnes de multiples pendaisons, parce qu'il y a énormément de contestations, justement, des droits du propriétaire dans le domaine, notamment des blés, bon, à l'époque. Mais c'est cette question majeure que le communisme, justement, avait pensé résoudre, de la contradiction entre la liberté des individus et la liberté des propriétaires, et le fait que, de fait, ce droit de propriété rentre en contradiction avec les droits de l'homme. Et de ce point de vue-là, on le vit encore, mais retravaillé par d'autres problématiques, et notamment celle de l'État, alors, qui est aussi dans la critique communiste, mais qui n'est pas dans la critique des révolutionnaires de 89, ni même de 93, même si il y a toujours, contrairement justement aux Lumières qui peuvent avoir flatté des despotes et penser réellement qu'on peut avoir de la liberté dans du despotisme éclairé, les hommes de la Révolution française, et là, quel que soit leur choix politique, sont tous convaincus que les formes du pouvoir doivent être pensées comme toujours menaçantes et comme toujours risquant de porter atteinte à cette liberté. D'où des inventions comme les mandats très courts. Donc, de ce point de vue-là, on rejoint aussi la modernité politique, ou l'invention, comme le directoire, de ces groupes de gens pour éviter justement le despotisme personnel. Donc, faire gouverner des gens à plusieurs. Enfin, il y a quand même énormément de réflexions là-dessus, sur comment éviter de recréer des petites tyrannies. Et l'idée de la loi semblable pour tous, c'est justement une façon de protéger contre...
Obéir à la loi n'est obéir à personne.
Voilà,
la dimension de la loi, justement, c'est très important, cette affaire. Enfin, bon, là, ça nous emmènerait beaucoup trop loin, quoi. Mais justement, donc, que faire de la dimension de la loi si la politique n'est pensée qu'à partir, disons, de groupes de groupes autonomes qui se gèrent eux-mêmes, etc. Est-ce que je ne parle pas nécessairement de l'organisation des pouvoirs, est-ce que c'est l'Assemblée qui fait la loi ou le peuple, ça, mais il me semble que il y a toujours dans une organisation politique une question qui se pose de loi, d'un énoncé symbolique qui est qu'on appelle les lois, la loi, et qui doit être garantie et qui ne peut pas, voilà, et qui doit être garantie. Et il se trouve que de nos jours, et ça c'est l'histoire, enfin je veux dire là c'est l'héritage de l'histoire, c'est l'État qui garantit qu'il y a de la loi. Alors maintenant, moi c'est vraiment une question que je me pose, c'est que comment faire, hein, qu'est-ce qui peut... Parce que justement, les totalitarismes sont des expériences où la loi est abolie. Il n'y a plus de loi. Et c'est un chaos, en fait. C'est-à-dire, justement, il y a des gens qui disent, oui, le totalitarisme, c'est le tout politique, c'est la toute-puissance de l'État. En réalité, c'est une démolition de l'État, justement. les totalitarismes, que ce soit du côté stalinien ou que ce soit du côté nazi. Et on voit qu'est-ce que c'est dans certains pays quand des États qui existent sont détruits. Voilà, c'est vraiment très compliqué, quoi. Très, très compliqué.
Alors, je ne sais pas si j'ai des éléments de réponse, mais j'ai des éléments...
Moi, j'en ai pas. Hein, monsieur.
D'abord, donc, en effet, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas de groupe humain sans règles. En fait, l'idée d'une anarchie, ou ce qu'on peut entendre parfois dans les ZAD, je fais ce que je veux, etc., c'est juste le pur libéralisme existentiel. C'est d'ailleurs souvent dénoncé sous ces termes-là par d'autres personnes dans ces mouvements-là. Donc il y a bien la conscience du fait qu'il faut un minimum de règles, de normes, et toutes les sociétés en ont toujours eu. Donc il n'y a pas de lien entre la loi, il n'y a pas de lien historique nécessaire entre la loi et l'État, enfin, sauf si on entend par loi quelque chose de très... très particulier, mais en tant que règle valable pour tous les groupes, pour à l'intérieur d'un groupe humain, ça, tous les groupes humains, même sans État, en ont eu. Moi, je dirais que la loi telle qu'elle est associée à l'État, et c'est un petit peu pour remettre en cause, en fait, en effet, obéir à la loi, c'est n'obéir à personne. Ça, c'est un des principes de base qu'on nous bassine quand on fait des études de philosophie. C'est la conception républicaine de la loi. Très bien, très bien. À quoi correspond-elle? Moi, je ne pense qu'elle correspond à rien aujourd'hui, à plus rien du tout, cette conception-là, parce que la loi a complètement changé de fonction. Quand on parle de ça, d'obéir à la loi, c'est ne t'obéir à personne, on rappelle aussi en général que nul n'est censé ignorer la loi. Personne ici dans cette pièce ne connaît ne serait-ce que le dixième du millième des lois qui sont en vigueur dans ce pays. Nul n'est capable de connaître la loi. Et moi, je trouve que parfois, la loi telle qu'elle est appliquée dans notre pays, dans ton exposé, ça m'a évoqué beaucoup de situations d'aujourd'hui. Toute personne qui est soumise à l'administration, dont l'administration ou l'État aurait aujourd'hui envie de lui casser les pieds, que ce soit un paysan réfractaire à un certain nombre de règlements industriels absurdes, complètement inadaptés à la nature artisanale et paysanne de ce qu'il produit, ou bien un activiste politique écologiste, est soumis et est pris dans un labyrinthe absolument incompréhensible de normes bureaucratiques, de règles, etc. Et j'ai entendu récemment... tout ça m'avait fait réfléchir justement à la nature de la loi, etc., à ce problème-là. Et j'ai entendu un juriste il n'y a pas très longtemps, des juristes d'ailleurs, dans un colloque, qui expliquait la chose suivante, qui disait qu'aujourd'hui, en effet, la loi avait complètement changé de fonction. On faisait des lois, a priori, non pas pour les appliquer. Il y a un nombre de lois qui ne sont manifestement pas applicables. Il n'y a même pas prévu la possibilité d'avoir un corps pour les faire accepter par tout le monde de manière universelle. On les fait pour pouvoir se débarrasser de personnes gênantes. Notamment toutes les normes alimentaires, etc., qui sont imposées, soi-disant, à tous les grands groupes industriels. Eux, ils ont le droit à l'autocontrôle. Elles sont utilisées pour éliminer les petites structures familiales, artisanales, etc. En pratique, c'est ça, la loi, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est en lien intrinsèque, je pense, avec les intérêts industriels, financiers, etc. Il y a toujours eu des liens entre l'État et les grands intérêts économiques et les grandes autres puissances sociales, la religion, tout le temps, ça c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, l'État en lien avec ces grandes puissances qui dominent la vie sociale aujourd'hui a littéralement subverti la conception républicaine de la loi, s'est assis dessus et on est peut-être plus dans une conception totalitaire de la loi. En tous les cas, quand on voit les lois, par exemple, je pense à des lois LOPSI 2 ou la loi anti-casseur qui va être discutée actuellement au Parlement, il y a plein de mesures qui ne seront applicables. S'il fallait les appliquer à tout le monde, ça reviendrait à mettre tout le monde en prison. C'est juste un arsenal pour pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de personnes au cas par cas. Et c'est ça le seul but des lois telles qu'elles sont votées aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, justement, on est dans un écheveau de lois que personne ne peut comprendre, qu'aucun juriste ne peut connaître, et pas même un parlementaire, et pas même le législateur, si tant est qu'il y en avait un. Donc voilà, c'était pour remettre un petit peu en question cette idée républicaine.
Oui, mais est-ce que c'est... Il y a deux façons de voir les choses. Il y a d'une part, effectivement, le constat que la dimension de la loi est en danger de nos jours, ça oui. Mais est-ce qu'on dénonce ça au nom d'une conception
d'un souci que la dimension de la loi soit maintenue, je dis bien la dimension de la loi, pas que les lois soient respectées, ou est-ce que on le fait en déniant la nécessité qu'il y ait de la loi? Parce qu'effectivement, on peut tout à fait, je suis tout à fait d'accord pour dire que la dimension de la loi est menacée. On sait aussi que la dimension de la loi régresse par rapport à la dimension du contrat, qui est de plus en plus. Justement, tout ça revient à des forces en présence qui vont négocier. Ça devient de la négociation, et on a un contrat qui va valoir pour cela et qui va plus valoir pour les autres. Mais est-ce que l'on dénonce ça au nom d'un souci de ce que c'est que la dimension de la loi, ou est-ce qu'on dit, mais au fond, on peut, ou est-ce que tout revient à la morale, au fond, c'est-à-dire à la bonne volonté des gens, à la discussion des uns et des autres, et des règles qu'ils élaborent eux-mêmes, qui ne vont pas être les mêmes. Voilà, moi, je n'ai pas de réponse, je dis, voilà. Par ailleurs, justement, je sais que quand j'évoque cette situation-là, moi, je suis toujours extrêmement prudente pour dire, bon, ben voilà, ça y est, on est dans le totalitarisme. Je fais toujours très, très attention, tu vois, et parce que je crois que ce n'est pas vrai.
Oui, oui, non, quand je disais vrai. Ça, c'était juste pour prendre le contre-pied, comme il y avait un petit peu cette idée... Voilà, en fait, là, on est dans un État républicain, donc la loi, etc., c'est obéir à la loi, ce n'est obéir à personne. Moi, je pense que c'est une fiction désormais, enfin, voilà. Donc, j'ai pris un petit peu le contre-pied en pointant sur le fait que, en tous les cas, ces juristes, moi, j'y connais pas grand-chose dans l'évolution juridique, mais eux, ils pointaient le fait que, finalement, la loi était... Les lois qui étaient faites, les arsenaux de lois tels qu'ils sortent régulièrement, où il y a tout et n'importe quoi dans la même loi, d'ailleurs, des lois sur l'habitation, sur la sécurité intérieure, etc., c'est des systèmes arbitraires, en réalité, qui sont masqués derrière un masque de loi. Et voilà, il ne faut pas se leurrer avec ça pour poser les problèmes. Et par ailleurs, encore une fois, moi, je me sens pas forcément l'âme républicaine au sens que ce mot a pris aujourd'hui. Par contre, l'idée qu'on puisse vivre sans règles ou sans loi, moi, me semble complètement absurde. Et je me suis toujours opposé aux gens qui prétendent ça. Pour moi, c'est ce qu'on appelle les libertariens, une forme d'ultralibéralisme absurde.
Bon, on fera une journée sur l'État et la loi pour suivre cette discussion. Merci beaucoup à tous les trois. Et merci au public.
Merci au public.
Courageux et téméraire.
Merci Axel d'avoir le courage de venir à vendredi soir.
Oui, mais enfin, bon, nous, on a discuté en